Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 décembre 2021. Noël approche de plus en plus. Je vous apprends rien de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, je sais pas si vous avez été absent ce week-end ou vous avez un tout petit peu suivi ce qui s'est passé vendredi dernier. Le gros thème de la semaine dernière et de la semaine qui nous attend, eh bien évidemment, c'est l'inflation. L'inflation qui continue à faire un carton aux États-Unis, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, on a des niveaux qu'on n'a plus vus depuis 40 ans aux États-Unis, même depuis 50 ans, selon comment on interprète le chiffre en détail. Et finalement, on aurait pu se faire une espèce de peur vendredi. On avait d'ailleurs cette crainte qu'avec un trop gros chiffre de l'inflation, on commence à flipper un petit peu. Eh bien, en fait, pas du tout, parce qu'on est déjà passé un step plus loin. Puis comme on savait déjà, eh bien, on a largement anticipé la nouvelle. Ce qui fait que finalement, les marchés s'en sortent plutôt pas mal, puisque le S&P 500 est à nouveau au plus haut de tous les temps. Alors oui, l'inflation, toujours une question d'interprétation, c'est un petit peu l'histoire des marchés depuis pas mal de temps, c'est pas forcément une question de réalité, c'est une question d'interprétation. Alors, effectivement, une inflation qui explose, eh bien ça ralentit, ça appauvrit finalement la classe moyenne, hein. Ça ne change rien à la vie de monsieur Elon Musk ou de monsieur Larry Ellison ou de monsieur Bill Gates, mais toujours est-il que c'est une préoccupation qui est plus ou moins une question d'interprétation. Les chiffres étaient donc au plus haut depuis des années, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est pas si grave que ça finalement, puisqu'on l'avait largement attendu. Et oui, les experts financiers que nous sommes, les stars en économie et en prévision boursière que nous sommes, avions déjà interprété le fait que, évidemment, que ça allait être génial et très très fort, mais on le savait déjà. Et oui, évidemment que ça pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle hausse des taux, mais c'est pas grave, parce qu'on nous dit déjà qu'aujourd'hui, quasiment la totalité du marché a déjà prévu 3 hausses des taux en 2022, donc il n'y a pas de souci, on est déjà au courant que Monsieur Powell qui va intervenir mercredi soir, je vous rappelle que la Fed se réunit mardi et mercredi, et que mercredi soir, Monsieur Powell va nous expliquer évidemment ce qu'il prévoit, ce qu'il interprète, ce qu'il voit pour l'avenir de l'inflation, et qu'est-ce qu'il va éventuellement faire. Mais on sait déjà qu'il va accélérer le tapering et on sait plus que probablement qu'on va déjà nous parler d'une hausse des taux plus tôt que le mois de juin 2022. Donc finalement, comme on savait déjà, eh bien le marché s'est dit, ben allons-y, ok, ben retour au plus haut de tous les temps. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'inflation, mais évidemment que tout le monde aura les yeux fixés sur la Fed mercredi soir. Et puis, il y a aussi une chose qui a été clairement interprétée au niveau des chiffres de l'inflation, eh bien, simplement le fait que si on regarde aujourd'hui ce qu'on a comme information du passé, eh bien, on sait aussi, et le marché a appris, semble-t-il, pour une fois, le marché a appris que finalement, chaque fois qu'on avait un cycle inflationniste comme ça, eh bien, c'est pas forcément mauvais pour les marchés, puisque ça veut dire que l'économie va relativement bien, voire même est relativement forte, puisque même dans la situation critique que l'on vit aujourd'hui de crise, de pandémie, on va dire, eh bien, les gens continuent à consommer comme des malades, donc ça continue à booster l'économie. Alors, une économie qui cartonne, c'est toujours relativement positif, bien sûr. Et puis, ben, ce que les gens savent aussi, c'est que à chaque fois qu'on a un nouveau cycle de hausse des taux qui commence, et je l'ai déjà mentionné dans ces vidéos, eh bien, vous avez toujours l'effet d'annonce, les taux montent, ou c'est mauvais pour les marchés actions. Boum, les marchés actions tombent, et puis après, on se dit, oui, mais si jamais, alors c'est mauvais pour les marchés actions, on le sait, mais par contre, si c'est bon pour l'économie, ça veut dire que c'est aussi bon pour les marchés actions. Et donc derrière, les marchés actions recollent au peloton et tout le monde repart à la hausse et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe au niveau de l'économie. D'habitude, c'est des cycles qui se reproduisent régulièrement. Mais cette fois, on est en train presque de prendre un coup d'avance en se disant « Mais pourquoi baisser ?» puisqu'on sait que de toute façon, après, ça va remonter. Donc, ça sert à rien. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui pose, je dirais pas problème, mais qui fait que les gens sont relativement motivés. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une réaction un petit peu plus timorée vendredi soir. D'ailleurs, les marchés européens l'avaient déjà anticipé dans le sens négatif. Et puis, ben, finalement, les marchés américains ont terminé au plus haut tous les temps. Ce matin, les futurs sont déjà en hausse de 0,4%. Donc, ça rigole, et on commence une nouvelle très belle semaine, semble-t-il. Et pour terminer au sujet de l'inflation, il restera donc deux choses encore à voir. C'est ce qu'en pense Powell, ça on sort mercredi soir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de langues, dont celle de monsieur Joe Biden, qui estime que les chiffres de l'inflation qui étaient forts, soit, sont un petit peu biaisés parce qu'on n'a pas encore complètement intégré la baisse récente du baril ces derniers temps. Alors le baril remonte un petit peu encore, mais par rapport au plus haut qu'on a eu récemment, eh bien il y a eu une grosse correction. Et donc du coup, ils estiment en général, parce qu'il n'y a pas que lui qui pense ça, que finalement, on n'a pas encore complètement vu le ralentissement qui va être induit par le baril. Espérons simplement que d'ici Noël, il ne soit pas de nouveau à 87$. Au passage, on saluera monsieur Larry Ellison, dont on parle pas souvent, mais qui est quand même dorénavant le cinquième homme le plus riche du monde, puisqu'il est passé devant les deux fondateurs de Google. Et donc, du coup, après les très très bons chiffres vendredi et l'explosion de Oracle, eh bien, monsieur Larry Ellison est donc numéro 5 au classement. Il pèse 135 milliards et il se rapproche dangereusement de Bill Gates et de sa 5G. Petit détour par le Covid-19, alors vous savez que j'ai toujours tendance à observer les médias financiers en me disant « Ok, où est-ce qu'on parle de Covid-19? Combien y a-t-il d'articles en première page à propos du Covid-19 ?» Eh bien, ça réduit drastiquement. Hein. Depuis une semaine, on sait qu'on a complètement digéré l'effet Covid, digéré l'effet Omicron et qu'on est passé à autre chose puisqu'on est plus ou moins convaincu qu'il ne devrait pas se passer grand-chose avec ce variant Omicron, peut-être même plutôt quelque chose de positif. En tout cas, au niveau des médias financiers, on a réduit la part des articles qui étaient autorisés et alloués finalement au Covid-19. Par contre, du côté presse politique, pas du tout. On est toujours à fond dedans, on a droit à des interviews des plus grands de ce monde qui nous expliquent qu'il faut vacciner, qui nous disent que ça va être une vague monumentale de contamination en Angleterre. C'est les paroles de monsieur Boris Johnson ce week-end, à cause du variant Omicron, bien sûr. Donc de ce côté-là, on continue à mettre la pression, mais par contre, nous, du côté marché, on a un petit peu botté en touche et on s'en fiche un tout petit peu pour l'instant. Il faut dire aussi que le marché a complètement intégré pour l'instant que le Covid-19 version Omicron n'aurait pas de conséquences graves sur la population. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on tombe sur une étude quelque part qui dit que les vaccins Pfizer, les vaccins Moderna et les vaccins AstraZeneca fonctionneront contre le variant Omicron et pourront donc nous sauver la vie. Donc on continue un peu dans cet positivisme ambiant. Donc pas de souci au niveau du Covid. Pour l'instant, on a complètement intégré la chose. Et on passe à autre chose. Côté Suisse, aujourd'hui, ce sera le grand jour pour l'UBS, puisqu'à 13h30, la cour d'appel de Paris devrait rendre son verdict concernant les accusations de fraude fiscale vis-à-vis de l'UBS. Donc, souvenez-vous, à l'époque, ils avaient pris une amende de 3,7 milliards d'euros parce qu'ils auraient soi-disant magouillé pour pousser les clients français à sortir leur argent de France pour les amener en Suisse. Alors, évidemment, l'UBS conteste, l'UBS dit qu'ils n'ont jamais fait ça, ils ont toujours respecté la loi, peu importe. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que pour qu'on ait des paradis fiscaux, il faut forcément qu'il y ait des enfers fiscaux, et la France semble être assez bien positionnée dans ce sens-là. Donc du coup, on attend néanmoins, ça c'était juste pour placer la petite histoire, et puis la tagline habituelle pour avoir un paradis fiscal, eh bien il faut des enfers fiscaux. Et donc du coup, aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris va rendre son verdict. L'UBS a déposé 1,1 milliard de cautions en espérant qu'on les absolve de absolument tout. La réponse tout à l'heure à 13h30, le marché sera très attentif à cette nouvelle qui pourrait avoir éventuellement quelques répercussions sur le cours de l'action. Toujours en Suisse et toujours dans le domaine bancaire, le Crédit Suisse demande d'avoir accès au téléphone de ses employés qui auraient des contacts avec les clients parce qu'ils veulent savoir ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui s'écrit. C'est les téléphones privés, hein, donc pas les téléphones qui sont attribués par la banque. Donc le Crédit Suisse veut rentrer dans la sphère privée des clients, ça commence à buzzer un peu à droite à gauche, pas encore de communication officielle de la part du Crédit Suisse. Mais bon, visiblement, c'est pas super surprenant. On sait qu'ils se sentent un petit peu au-dessus des lois. C'est vrai que quand on voit ce qu'a fait leur CEO à l'époque, leur ancien CEO, le micmac au niveau détective privé, tout ça, le Crédit Suisse est assez habitué à ce genre de comportement. Et puis surtout, maintenant qu'ils ont un nouveau CEO qui, lui, est au-dessus des lois, puisque visiblement, il n'a pas besoin de respecter les réglementations anti-Covid. C'est vrai que ça ne s'applique uniquement aux petites gens. La question du jour aujourd'hui, à partir du moment où le Bitcoin et les cryptos sont cotés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que pensez-vous de la cotation des actions Est-ce que ça va suivre un jour pour le Nasdaq ou pour les autres, notamment avec le fonctionnement électronique de certaines places boursières? Bon, la plupart des places boursières sont évidemment électroniques aujourd'hui. Il est évident que ça fait longtemps qu'on nous parle effectivement qu'on pourrait augmenter encore les heures de trading sur les actions. Alors, je n'ai pas la boule de cristal de ce côté-là. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des années, bah, ça s'est toujours un tout petit peu plus étendu. La problématique que ça va aussi driver, c'est que sur les actions, on a quand même besoin d'avoir des acteurs qui sont assez présents. Parce que si tout d'un coup, vous avez des périodes dans la journée où finalement, vous n'avez plus assez de volume, il pourrait y avoir des écarts de liquidité et du coup, des gros mouvements qui sont aberrants sur les actions. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur les crypto-monnaies. On voit très bien parfois pendant le week-end où tout d'un coup, vous avez des interventions de on ne sait pas qui, où, depuis quand et comment, mais tout d'un coup, vous avez des mouvements monumentaux sans qu'on sache trop pourquoi, parce que tout d'un coup il y a un assèchement de la liquidité et il y a des mouvements qui se font. Alors l'avantage du trading 24 heures sur 24, c'est qu'effectivement on peut traiter 24 heures sur 24. Le désavantage, c'est que finalement j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y a des creux et puis que finalement c'est extrêmement difficile structurellement de pouvoir continuer à suivre un marché efficacement s'il n'y a même pas des moments où c'est terminé, où il y a des pauses et puis qu'on peut prendre le temps de réfléchir. Je sais pas pour les crypto-monnaies parce que je suis pas un expert, mais au niveau des actions, personnellement, si demain ça passait en trading 24 heures sur 24, j'aurais tendance à dire que ce serait une grosse connerie. Il y aurait des avantages parce qu'effectivement, on peut traiter la nuit, super. Bon, moi, j'ai autre chose à faire la nuit en général, déjà que je dors pas beaucoup. Mais globalement, c'est vrai que il pourrait y avoir des problèmes de liquidité et je trouverais dommage qu'on prenne pas le temps simplement de se poser. Et puis la course, cette surenchère à toujours vouloir tout faire tout de suite, tout le temps, eh bien, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Voilà, tout ce que j'ai pu constater dans ma carrière, c'est qu'à l'époque où on avait beaucoup moins d'heures de trading, ça se passait tout aussi bien que quand on en a 3 ou 4 ou 5 de plus. La problématique qu'on peut avoir des fois, c'est qu'on a des décalages parce que l'Europe ferme plus tôt que les États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a des zones grises où finalement l'Europe termine en baisse comme vendredi alors que les Américains continuent à monter. Puis on est un peu frustré lundi matin parce qu'on a raté le train. Ça, c'est un problème qui devrait plus se régler, qui devrait plus exister si jamais un jour cette éventualité se met en place. Pour l'instant, j'ai rien vu récemment qui laisse supposer que ça allait se faire. La logique même de l'être humain et de ce qu'on vit ces dernières années sur l'efficience absolue de tout ce genre de plateforme, eh bien, on peut imaginer qu'on va dans une direction et que ça devrait bien sûrement, ça va sûrement se produire à un moment ou à un autre. Après, il y aura aussi toujours des questions qui seront présentes parce que, par exemple, on sait que dans certains pays musulmans, par exemple, on peut pas ouvrir les marchés tel jour pour des raisons religieuses. Comment on va faire par rapport à ça? Perso, je pense que je reste convaincu que si on peut-être on augmente les heures de trading de 8h à 20h, on peut faire 8h, 20h, admettons, mais qu'on ferme quand même la nuit, ce serait pas mal. Mais enfin, pour l'instant, c'est de la musique d'avenir. Ça peut se décider très vite de toute façon. La problématique, c'est qu'il va falloir qu'on ait vraiment une espèce de corrélation mondiale, parce que si tout d'un coup vous avez les États-Unis qui ouvrent 24 heures sur 24 et l'Europe qui continue à avoir les anciens horaires, ça sera problématique. Donc pour l'instant, on peut en parler beaucoup, mais on n'a aucune réponse. D'ailleurs, je n'ai aucune réponse. Personnellement, je suis contre, absolument contre. Mais enfin, c'est pas moi qui décide de toute façon. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce petit lundi matin. Lundi qui est vraiment concentré sur l'inflation et les banques centrales. D'ailleurs, la semaine sera placée sous le signe des banques centrales puisque, donc, mardi, mercredi, on aura la Fed et puis jeudi, on aura Madame Lagarde, enfin, la Banque Centrale Européenne qui parlera également. Alors, Madame Lagarde, on va être très attentif à ce qu'elle va nous dire parce qu'elle pourrait aussi parler d'un tapering, d'une accélération du tapering. De problématiques inflationnistes, donc on va être très très attentif sur ce qui va se dire jeudi aussi sur la BCE, mais d'ici là, eh bien, le premier objectif, c'est mercredi soir avec Monsieur Powell, mais d'ici là, on se retrouve de toute façon pour en parler demain matin encore, pour revenir sur la journée de ce lundi. D'ici là, moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, qui a passé ce week-end les 12 000 abonnés. Merci à tous. Et puis, likez cette vidéo et revenez demain. Bye bye.